Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
C'est qui? Qui? C'est qui Kina Studio?
Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Jeans Podcast saison 2. Aujourd'hui, on va parler d'antiracisme, de virilité, de lutte intersectionnelle et de violence policière. Parce qu'il ne suffit pas de ne pas être raciste en 2023. Il faut être antiraciste. Il faut agir, c'est-à-dire prendre par exemple le risque de se faire licencier ou de se faire virer de cours parce qu'on a confronté une personne raciste. Ça veut dire prendre le risque d'aller en manifestation et de se faire arrêter. Ça veut dire tout simplement aussi ne plus laisser passer aucune blague raciste à Noël, le dimanche pour le goûter en famille ou à un dîner entre amis. Si vous ne prenez vraiment aucun risque pour être antiraciste, alors vous n'êtes pas vraiment une personne alliée à la cause. Mettre soudainement un carré noir sur votre feed Instagram n'est pas la preuve univoque de votre antiracisme inébranlable. Moi perso, je me souviens d'avoir toujours eu peur de la police. Je ne suis jamais sorti de chez moi sans ma carte d'identité, même pour aller chercher une baguette à la boulangerie. Quand un policier est près de moi, à l'inverse de me sentir en sécurité, je me sens en danger. Et pourtant, je ne suis pas des plus ciblés. C'est le sujet du jour. Mais est-ce que « all cops are bastards » ACAB, l'État moderne se caractériserait par le monopole de la violence légitime au sens weberien, mais jusqu'où est-ce légitime? Alors en terre d'islam, loin des pseudo-démocraties européennes, il existe une police des mœurs, récemment remise en question en Iran. C'est parfois une police religieuse, appelée Mutawaa ou Hay'a, dont le rôle est d'appliquer les principes de la charia dans la sphère publique. C'est le cas en Arabie Saoudite, en Malaisie, au Soudan. Et plus généralement, tout le monde se flique. Surtout les hommes qui contrôlent les corps des femmes, comme c'est le cas en Afghanistan, ou à moindre mesure, au Maroc ou en Algérie. C'est dire à quel point la police n'est pas juste un uniforme, mais tout un système d'exercice d'une domination des uns sur les autres. Un système de domination qui contraint aussi les policiers noirs à mettre en danger la vie d'autres hommes noirs, comme on l'a vu récemment avec la mort tragique de Tyre Nichols aux États-Unis. C'est dire à quel point la domination policière est d'héritage colonial, ségrégationniste et raciste. C'est pourquoi il ne faut pas avoir peur de réfléchir à refondre le système en entier. C'est pour cette raison que je vais détailler avec vous aujourd'hui, mes chers auditeurs, une dénonciation du racisme et de l'islamophobie d'État. Aux États-Unis, au moins 1176 personnes ont été tuées par la police en 2022. Un record. Les personnes noires sont évidemment plus ciblées. Elles ont trois fois plus de chances d'être tuées par la police que les personnes blanches. Et ce, après l'indignation mondiale suite au décès de George Floyd aux mains de la police de Minneapolis. À l'inverse, la police abat un homme tous les 10 ans en Norvège. En moyenne, un policier sur 20 est armé au Royaume-Uni. Et sur 15 000 opérations de policiers armés, ils n'ont pas toujours dégainé et n'ont fait feu qu'à 7 reprises pendant toute l'année. Qu'en est-il de la France? Eh bien, les informations sur nos chiffres sont brouillées parce que l'IGPN, la police de la police, n'est pas transparente. Et parce que je vous rappelle que l'on ne peut rien qualifier de raciste en France puisque le mot a disparu de la Constitution en 2018. S'il n'y a pas de race, alors il ne peut pas y avoir de racisme. C'est bien connu. Je voudrais donc juste rappeler quelques moments historiques et quelques noms pour ne pas les oublier. Les immondices de la guerre d'Algérie et tous les épisodes coloniaux en Afrique. Les agressions racistes de 1973 en France sont une vague de meurtres et de violences racistes envers des immigrés maghrébins perpétrés principalement dans la région de Marseille. Ces crimes ont conduit à l'assassinat d'au moins 17 Algériens et regroupent environ 50 agressions racistes dans la région marseillaise. La mort de Malik Houssekine dans la nuit du 5 décembre 1986 à Paris qui me fend le cœur quand je regarde les adaptations au cinéma comme Nos Frangins de Rachid Bouchareb ou Malik, la série sur Disney+. L'affaire Théo, grièvement blessé par un coup de matraque dans l'anus en 2017. Les violences abominables qu'a subies Michel Zecler. l'électrocution de Ziad Benna et Bouna Traoré, qui essayaient d'échapper à un contrôle de police. Et puis, il y a Abdoulaye Camara, Babacar Gueye, Amadou Koumé, Aboubakar Itandia, Makome Mbouole, Abdelhakim Hajimi, Cédric Chouvia, Amin Bentounsi, Chaouya Oliou, Lamine Dieng, Abdelkader Bouziane, Aboubakar Fofana, ou encore Mohamed Elmi Gabsi. Dites leur nom, pour qu'ils ne soient pas oubliés. En 2021, l'affaire des messages WhatsApp avait démarré avec le dépôt d'une plainte d'un policier noir contre 6 de ses collègues de Rouen, après avoir découvert qu'il était la cible de propos racistes de leur part. Des conversations à connotation suprémaciste qui évoquaient, notamment, je cite, « des bougnoules et des fils de pute de juifs ». En janvier 2023, un policier membre du parti Reconquête, Éric Zemmour, diffuse sur Telegram des messages racistes à propos de deux personnes mortes lors d'un accident de la route, qualifiées de « babouchman » et de « babouin ». Dans les quartiers populaires, les policiers interpellent ceux qu'ils appellent les « bâtards » et les « bamboulas ». Depuis 10 ans, chaque étude montre que les policiers en France sont au moins 55% à voter à l'extrême droite. C'était 74% aux dernières présidentielles. Plus si étonnant qu'un homme noir ou arabe ait 21 fois plus de probabilité de se faire contrôler au faciès qu'un homme blanc. Les contrôles d'identité et le fichage proviennent de traditions de domination policière héritées de l'époque coloniale. On n'est plus au stade des bavures. La bavure n'est pas un fait isolé ou une exception, mais ce qui caractérise le fonctionnement routinier de la police. Les mouvements d'abolition de la police depuis les féministes anticarcérales comme Mariam Kaba ou même déjà Angela Davis sont de plus en plus nombreux. Le maintien de l'ordre est intrinsèquement défectueux et gangréné. Selon les abolitionnistes, la police doit être dissoute, désarmée et déresponsabilisée car c'est une institution profondément enracinée dans une histoire de suprématie blanche et de colonialisme. Mais alors, comment obtenir justice ? Comment pouvons-nous collectivement faire face au racisme et lutter pour l'inclusion de tous? Et surtout, combien de personnes racisées doivent encore mourir dans ce monde pour qu'il y ait un changement? Alors aujourd'hui, j'ai invité une icône de la lutte pour la justice, immense figure de l'antiracisme en France et à l'international, j'ai nommé Assa Traoré. Assa naît en janvier 1985 à Paris. Elle grandit parmi ses 17 frères et sœurs à Beaumont-sur-Oise. Musulmane, mère de 3 enfants, Assa devient éducatrice spécialisée à Sarcelles après avoir obtenu son diplôme en 2007. En parallèle, elle crée des vêtements wax dont elle relancera l'activité en 2019. Alors qu'elle est en Croatie avec les jeunes qu'elle encadre pour leur faire découvrir d'autres horizons, le monde d'Assa s'écroule le 19 juillet 2016. Je rappelle brièvement les faits, mais je vous encourage vivement à aller acheter et lire « Lettre à Adama », le livre écrit par Assa. C'est un récapitulatif poignant, alarmant, touchant, et surtout, les fonds sont reversés au projet qui permet à la famille Traoré d'obtenir justice. Nous sommes le 19 juillet 2016. Adama Traoré, homme noir de 24 ans, est interpellé par des gendarmes. Adama prévoyait de fêter son anniversaire ce soir-là. Il allait tout juste récupérer sa carte d'identité à la préfecture. Il tente de fuir, mais est rattrapé. Il ne fuit pas parce qu'il est coupable. Il fuit parce qu'il sait que toute interpellation comporte un danger pour lui. Il subit de nombreuses violences, et notamment un plaquage ventral. Il meurt menotté au commissariat de Persan dans le 95, le jour de ses 24 ans, où ses 16 frères et sœurs auraient dû célébrer son existence et non sa mémoire, le combat Adama commence. Depuis cette date, je n'ose énumérer les innombrables violences psychologiques et physiques qu'ont subies la famille Traoré et leurs alliés. Ce qui est certain, c'est que leur détermination est sans faille pour obtenir la justice. Et que des alliés, la famille en a de plus en plus. En réaction à l'expertise médicale du 29 mai 2020, qui écarte la responsabilité des gendarmes dans la mort d'Adama Traoré, le 2 juin 2020, 20 à 80 000 personnes se massent devant le palais de justice de Paris en mémoire d'Adama, pour dénoncer les violences policières. Le 13 juin de la même année, 130 000 personnes se réunissent place de la République. Encore aujourd'hui, le combat continue.
Justice pour Adama.
Salut Assa, merci d'avoir accepté mon invitation dans Jeans.
Salut.
Disons-le clairement, ton frère Adama Traoré est mort à cause de la police. Plus précisément, sous le poids de 3 corps policiers, 250 kilos, sans compter leur attirail, alors qu'il était à terre, menotté. Ils ont exercé sur lui un plaquage ventral, qui est une technique létale, interdite dans d'autres pays européens. Sa mort est évidemment terrible et est devenue le symbole d'une asphyxie généralisée chez tous les jeunes de quartiers populaires qui étouffent à l'école, qui étouffent dans la rue, qui étouffent lors des contrôles, lors des fouilles, lors des incarcérations. Alors je vais commencer par une question un peu triviale. Pourquoi ? Pourquoi une telle violence ?
Aujourd'hui, la violence qui est posée, en tout cas que mon frère a subie ce 19 juillet 2016, le jour de son anniversaire, le jour de ses 24 ans, bah, c'est cette violence aujourd'hui que je dénonce et de dire pourquoi une telle violence ? Mais la violence, elle est encore plus forte quand c'est sur un homme noir, quand c'est sur un homme des quartiers populaires, quand c'est sur un homme arabe, quand c'est un homme qui vient d'ailleurs. Il y a une double violence quand sa famille, cette famille se lève et ose réclamer cette justice et de dire pourquoi une telle violence. Donc la violence, c'est une violence qui commence et qui ne s'arrête plus. Adama va porter le poids de leurs trois corps sur son corps. Mon frère va leur dire « je n'arrive plus à respirer ». Mon frère va subir un plaquage ventral. Ils vont traîner mon frère dans ce véhicule de la gendarmerie. Un gendarme va le prendre de chaque côté. Ils vont le mettre dans ce véhicule où mon frère va dire « je n'arrive plus à respirer ». Mon frère va uriner sur lui. Ils vont passer devant l'hôpital. Ils ne s'arrêtent pas devant l'hôpital. Ils vont le jeter dans cette cour de gendarmerie à Persan. Ils vont le jeter sur le sol. Et on va apprendre, grâce aux pompiers, que quand ils arrivent dans cette cour de gendarmerie, les gendarmes vont mentir. Ils vont dire qu'ils vont apporter les premiers soins à Adama, ce qui est faux. Ils vont laisser Adama sur le sol, ventre contre le sol, menottes dans le dos, sans lui apporter aucun soin, aucune assistance. C'est impossible parce qu'il n'a pas été mis en PLS. Donc la violence, elle est jusqu'à dans les derniers souffles. La violence, elle est on te laisse mourir comme un animal. Mais aujourd'hui, Adama, on va le regarder comme quelque chose qu'on ne veut pas avoir vivre. Ils ont eu un droit de mort sur la vie de mon frère. Ils ont décidé qu'Adama Traoré allait mourir parce qu'on ne l'emmène pas à l'hôpital. Oui, la violence est extrême. Et la violence, elle est dans tout. Elle est pas que dans les coups. Elle est aussi dans la pensée qu'ils ont. Parce que à un moment donné, aucun de ces gendarmes va dire « stop, arrêtons à cette violence et aidons cet homme à vivre ». Donc la violence, elle est aussi psychologique. La violence, elle est aussi dans le corps. Donc c'est une violence qui est énorme. Et la violence, elle est là, quand je me bats pour mon frère et que je dis le combat Adama, c'est pour tous les Adama Traoré. Parce que ce qu'Adama Traoré a subi, malheureusement, beaucoup l'ont subi avant. Beaucoup l'ont subi après. Mais pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, nos frères, nos hommes, ces hommes issus des quartiers populaires, ne sont pas considérés comme pouvant participer à la construction de ce monde, ne sont pas considérés comme pouvant participer à la construction de cette France et ne surtout pas considérés comme pouvant participer à la construction de leur propre vie. Parce que quand on est un homme noir, arabe ou d'une autre couleur et qu'on peut se faire contrôler plus de 5 fois par jour, aller en garde à vue, c'est pas moi qui le dis. La France a été condamnée par la Cour européenne pour contrôle au faciès. C'est qu'il y a des contrôles à répétition. Et ça veut dire quoi ? C'est que tu n'as pas le droit de circuler librement comme tu veux. Ces hommes ont été déshumanisés. Ce sont des hommes qu'on n'affiche pas au grand écran. Ce sont des hommes qu'on ne valorise pas. Ce sont des hommes qu'on méprise. Donc oui, quand on regarde Adama Traoré, ou quand on regarde Ali Ziri, quand on regarde Clodo, quand on regarde Cédric Chouviat, quand on regarde tous ces hommes-là qui ont subi ces violences-là, ces plaquages ventrales, la liste, elle est longue. Et c'est triste que je puisse encore dire que la liste est longue. Aujourd'hui, là, ils posent un regard déshumanisant sur eux. Ça veut dire que quand on met une telle force et une telle violence, c'est que vraiment, il y a quelque chose de très fort, de très méprisant. Nos frères, ils ont le droit de vivre. Et on le voit quand ils vont mourir. Ils n'ont pas de nom, ces hommes-là. On dit des jeunes, ce ne sont pas des jeunes, ce sont des pères de famille, ce sont des travailleurs, ils ont un statut. Donc la violence, elle est encore dans les mots. La violence, elle est partout.
Justice pour Mohamed !
Justice pour Mohamed !
Justice pour Amadou !
Justice pour Amadou !
En mars 2019, lors de son grand débat national, le chef de l'État, Emmanuel Macron, avait dit
« Ne parlez pas de répression ou de violence policière, ces mots sont inacceptables dans un état de droit. »
Alors parlons-en du coup, puisqu'on n'est pas vraiment dans un état de droit. Un état de droit ne transfère pas l'arbitraire d'un souverain omnipotent à des flics. J'avais notamment participé à une conférence où je dénonçais les violences policières aux côtés d'Amal Bentounsi, à la tête du collectif Urgence, notre police assassine. En 2012, Amal perdait son frère Amin Bentounsi, recherché par la police pour des braquages. Pourtant, en février 2017, l'article L435-1 du Code de la Sécurité Intérieure autorise désormais toutes les forces de l'ordre à tirer, après sommation, sur des personnes en fuite désignées comme potentiellement dangereuses. Même s'il s'agit d'une délinquance ou qu'il a tenté de fuir, on ne peut pas donner aux policiers le droit de tuer, ou sinon, ça s'apparente à la peine de mort. Pour rappel, la peine de mort a été abolie en 1981. Il y a eu en France 19 exécutions entre 58 et 81, alors qu'il y a eu 26 personnes tuées par les forces de l'ordre en 2017 seulement. Alors, est-ce normal que la police ait droit de vie ou de mort sur les personnes interpellées ?
En fait, on n'a même pas à trouver un justificatif du délit ou pas du délit. Juste poser la question, c'est de donner un justificatif sur le fait qu'il le fait. Je suis désolée, on a énormément de monde, que ce soit en France ou partout, qui font des petits, des grands délits, et c'est pas tout le monde à qui on tire une balle dans le dos, dans la tête, dans le cou. C'est pas à tout le monde qu'on fait subir un plaquage ventral. C'est pas à tout le monde qu'on gêne dans la scène. Donc c'est ciblé. C'est ciblé. Et cette cible, c'est cette cible-là qu'il faut arrêter. C'est du racisme. C'est qu'aujourd'hui, la violence, elle est mortelle. La violence, elle est extrême. Quand on nous dit, il a fait ci ou il a fait ça. Mais en fait, ces personnes-là, je leur dis, mais vous participez donc de remettre en place la peine de mort. La peine de mort a été abolie. Sauf qu'elle a été abolie, mais aujourd'hui, on a l'impression qu'elle est mise entre les mains de d'autres personnes, ces peines de mort. Et personne n'a de droit de vie ou de mort sur la vie de quoi que ce soit. Personne ne peut décider qui a le droit de mourir ou pas. Personne ne doit dire « tu meurs parce que tu as fait ceci ou tu as fait cela ». Je suis désolée. Ces derniers mois, le refus d'obtempérer, il y a eu énormément de morts. Et pourquoi, dans tous ces refus-là, nous avons que des Noirs, parce qu'il y a eu des femmes aussi, et des Arabes, qui se font tuer. La peine de mort a été abolie et on se bat pour qu'elle ne soit pas rétablie.
Justice pour Alan !
Justice pour Alan !
Justice pour Sahoyo !
Justice pour Sahoyo !
Tata, la maman d'Adama, et son frère Yakuba se présentent à la gendarmerie de Persan pour savoir s'il allait bien le jour de la mort d'Adama Traoré. On leur ment. On leur dit qu'Adama va bien, qu'il a vu un avocat. Il accepte même de lui passer un sandwich que vous lui aviez acheté. Il était mort depuis 2 heures déjà. La police et les médias criminalisent Adama en disant qu'il était sous l'influence de drogue et d'alcool, ou qu'il était cardiaque, comme ils l'ont fait pour Wissam El Yamni, torturé et tabassé à mort par la police en 2011. Dans les deux cas, les contre-expertises toxicologiques ont montré que c'était faux. Plus encore, les versions des différents policiers, des témoins, des agents, des pompiers sont différentes. Elles ne se recoupent pas parfaitement. Il y a un flou énorme sur les différentes versions. Et depuis cette date, vous tentez de recomposer la vérité, de mettre à nu un système organisé pour renvoyer les personnes racisées à l'invisibilité. Ma question est la suivante. Face au déferlement des mensonges et des violences policières qui restent impunies, comment peut-on unir nos forces en tant qu'alliés et comment on peut aider à lutter pour que la vraie vérité éclate au grand jour ?
Pour moi, la vérité est déjà là. La vérité, elle est là. Les expertises sont là, elles disent que les gendarmes sont responsables. Les gendarmes ont eux-mêmes dit qu'Adama a porté le poids de notre corps sur son corps. La vérité, elle est là. Ils sont responsables de la mort de mon frère. Et à chaque fois, c'est pareil. Et aujourd'hui, en fait, on a un système qui protège, qui les protège. Ils partagent la part du gâteau et on fait en sorte qu'on va protéger les gendarmes ou les policiers. On va avoir des fausses expertises. Les experts vont mentir. Les juges vont se cacher derrière ces expertises. Il y aura des enquêtes bidons qui vont être faites. Donc aujourd'hui, il faut se battre. Il y a une criminalisation qui va se mettre autour des victimes, autour des familles des victimes. Mais elle se fait parce que déjà, la victime, quand elle meurt, elle n'est pas humanisée, elle est déshumanisée. La criminalisation, c'est une suite logique. Et c'est ce qu'ils font exactement pour tout le monde. Et c'est de dire qu'aujourd'hui, cette criminalisation, on ne veut pas l'entendre. Et aujourd'hui, nous, on impose cette vérité avec nos voix. Et on a réussi à le faire. En tout cas, dans l'affaire Adama Traoré, on a imposé notre voix, on a imposé la vérité. Moi, j'ai été mise en examen en 2021, parce que j'ai dit à Adama, les gendarmes t'ont tué, mais ne tueront pas ton nom. Donc j'accuse. Je suis mise en examen encore 4 fois aujourd'hui. Ben pour moi, c'est une faiblesse, ça, pour eux. Quand aujourd'hui, ils font ça, ben je gagne mon procès au pénal. Je gagne avec une reconnaissance d'utilité publique en disant que le combat Adama Traoré est un combat aujourd'hui qui appartient à la société. Il n'y a plus de débat. Adama Traoré ne reviendra plus. Par contre, on réclame cette justice, que la vérité, on la connaît. Et c'est surtout que des Adama Traoré, il y en a encore plein derrière. Il y a des enfants qui vont grandir et on n'a pas le droit de le laisser, en tout cas, se construire dans ce monde qui est assez brutal. Quand ils croisent la police, où ils peuvent mourir, où ils ont le choix entre mourir et vivre. On ne doit pas avoir le choix entre mourir et vivre quand on croise les forces de l'ordre. Et on a amené le combat plus loin, c'est de dire qu'aujourd'hui, c'est pas que la mort d'Adama Traoré, c'est tout ce qu'il y a derrière, toutes ces discriminations, ces inégalités. Comment la société a construit tout ça et comment on arrive à ce racisme qui est là. et qu'on puisse tuer aussi facilement.
Justice pour Steph !
Justice pour Steph !
Justice pour Zineb !
Justice pour Zineb !
Justement, je voudrais aussi parler de l'intimidation et de la guerre médiatique que vous avez dû vivre en tant que famille. 4 de tes frères et sœurs ont été incarcérés aussi. Vous avez été fréquemment la cible de descentes de flics, d'interpellations, d'intimidations, de gazages. Et quand je dis 4 de tes frères, c'est pas un, c'est 4. Donc non seulement l'État n'a pas soutenu la famille, mais il vous a combattu. Récemment, tu as même dû verser la somme de 12 100 euros aux gendarmes qui ont causé la mort d'Adama Traoré parce que tu as dit que les gendarmes avaient causé la mort de ton petit frère. C'est révoltant. Et surtout, je me dis toujours, c'est quand même antidémocratique, non ?
Il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin. Il faut aller avant la mort d'Adama Traoré. Il faut aller avant 2016. Il faut aller avant 2023. Il faut aller très, très loin. Il faut aller au temps de l'esclavage, déjà. Il faut aller au temps de la colonisation. Et tant qu'aujourd'hui, la France n'assumera pas ses actes, on est dans la continuité de ce qui se passe. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est dans le droit de le faire. Parce qu'ils l'ont déjà fait dans le passé, dans cette histoire. La police française, elle a été construite sur quelle base ? Elle a été construite sur la base de la colonisation, sur la base de la violence, sur la base où on devait tuer et jeter à la Seine des Arabes. C'est extrêmement violent. Et aujourd'hui, on ne peut pas avoir une police qui s'est construite sur ça. Aujourd'hui, on veut des gardiens de la paix qui puissent en tout cas protéger sa population et nous protéger et ne pas avoir peur. On devrait avoir confiance. On devrait même être rassuré. On devrait même être content de les croiser. Mais aujourd'hui, on a peur. Aujourd'hui, on a peur. Zied et Bouna, ce sont des enfants quand ils croisent la police. Ils ne devraient pas avoir peur, mais ils courent et ils meurent. Et c'est ça qui est pas normal quand on met les frères d'Adama Traoré en prison. Comment vous, homme noir, osez-vous demander et réclamer la justice pour votre frère? Mais mon frère, j'ai dit à mes frères, vous sortirez la tête haute. Mon frère Bagui a fait 5 ans de prison. C'est le témoin principal dans la mort d'Adama Traoré. Il est accusé de tentative d'assassinat sur 92 gendarmes. Un dossier qui est monté par les gendarmes et qui est complètement faux. On va avoir 3 semaines de procès aux assises à Pontoise. Et quand j'entends la phrase nous demandons qu'il soit acquitté, qu'il n'y ait rien contre lui. Rien. Je dis, c'est pas possible. 5 ans de combat, c'est l'acharnement, c'est l'intimidation. Moi, je gagne mon procès au pénal. Je gagne le plus haut niveau. Ils vont en civil. Je dois verser de l'argent aux gendarmes qui ont causé la mort de mon petit frère. Cette phrase est extrêmement violente, mais elle veut tout dire. Et c'est pour ça qu'on doit se battre et qu'on ne doit pas se laisser faire. On tue nos frères, on tue mon frère et on paye. Pour te dire aussi que les gendarmes ont été médaillés, tu peux retrouver ça dans les médias, pour l'interpellation d'Adama Traoré. On demande juste la vérité, la justice pour mon frère. On demande rien d'autre. Et sauf que le peuple, c'est pas que la famille Traoré qui le voit, c'est le peuple français qui le voit. Mais on lâchera pas le combat, on ira jusqu'au bout. Le combat, il est légitime. Sinon, le 2 juin, on n'est pas plus de 80 000 devant ce tribunal. Le 13 juin, on n'est pas plus de 120 000 à République. Et c'est pas nous, c'est le peuple français qui sort dans la rue et qui scande le même mot d'égalité, de liberté, de lutter contre la discrimination, le racisme, justice pour Adama, justice pour tous. Et c'est un combat qu'on mènera jusqu'au bout. Moi, j'ai envie de te dire, ils peuvent me mettre 20 mises en examen. Ça m'intimide pas, ça me fait même pas peur. C'est pas, on a tué mon frère. Et c'est légitime.
Justice pour Adama!
Justice pour Adama!
Justice pour Bouna!
Justice pour Bouna!
On l'a vu dans un épisode de Jeans avec l'historien Todd Shepard, il y a eu une injonction à viriliser les Français à travers une réaffirmation de l'autorité masculine passée par des attaques violentes contre une Algérie virilisée, où la domination masculine prenait une forme néfaste, trop violente, du fait notamment de leur religion et de leur civilisation arriérée. Loin des gauchistes qui sont trop efféminés, seul le camp national et nationaliste français incarnait la virilité normale et saine, qui serait capable de défendre les Français face à leurs ennemis pervertis. Les policiers sont alors construits comme des protecteurs des Français. Ce sont des hommes bien, des bons pères, des bons agents, avec des valeurs, une stabilité et un rôle social. Ils nous protègent des cassos, de la racaille, des banlieusards, des pauvres et des non-blancs. Les hommes racisés, et en particulier les hommes arabes et noirs, ont été construits dans l'imaginaire collectif comme violents, comme voleurs, comme violeurs. Est-ce que tu penses que le fait d'être une femme noire, qui est très belle, qui prend la parole sur les sujets de violence policière pour sa fratrie et pour les autres Adama Traoré, le message passerait mieux?
De toute façon, quand on regarde tous les combats, majoritairement des combats, aujourd'hui on a aussi des frères qui prennent la parole, mais elles ont majoritairement été prises par les femmes. Déjà, Pourquoi? Parce que c'est nos frères qu'on tue. C'est nos frères qu'on casse. Et dès qu'ils prennent la parole, bah, c'est tout de suite très violent. Et la violence face aux femmes, que ce soit dans la construction aussi hein, de la femme, c'est l'image qui a été créée autour de la femme, l'exotisme, le fantasme qu'on veut avoir, docile. Sauf que je pense qu'aujourd'hui, je suis une des femmes noires qui reçoit le plus d'attaques en France. J'ai un cyberharcèlement qui est énorme. Je reçois des menaces de mort. J'ai des top tweets, j'ai des articles à n'en pas finir. J'ai des insultes parce que je suis une femme noire qui reste pas à sa place et qui n'est pas docile et qui n'est pas dans ce rôle qu'on a construit où on veut voir ces femmes noires, arabes ou autres comme eux, ils le veulent. Et j'ose demander, moi, la justice pour un homme noir. Donc oui, les attaques, elles sont là, elles sont plus fortes. De dire qu'ils pensent à sa Traoré, ils mangent à sa Traoré. Donc ils sont obligés d'être aussi violents. Et la violence, elle est réelle, elle est là. Parce que je suis une femme noire. Et je pense pas qu'aujourd'hui, il y a autant de violence qu'on peut mettre sur une femme blanche. L'ONU, aujourd'hui, je sais pas si tu as vu, a alerté la France et a demandé une protection sur les menaces que j'ai eues sur les syndicats de police. On a comme des syndicats de police qui ont fait des tweets suite à mon passage à l'ONU, avec des propos diffamatoires. Au contraire, ça me renforce et ça me montre que bah, plus ils attaquent, plus ils sont faibles. Parce qu'ils ont besoin de crier, ils ont besoin d'avoir cette attitude-là. Et moi, je leur rappelle juste, je suis juste la sœur d'Adama Traoré et je demande la vérité, la justice pour mon frère qui est mort ce 19 juillet 2016, le jour de ses 24 ans. Quand mon frère sort ce jour-là, il met un bob, une chemise à fleurs et un bermuda et prend son vélo, il veut juste aller faire un tour de vélo. Bah, j'ai le droit, nous avons le droit avec ma famille de le demander cette justice. C'est pas un crime. Et aujourd'hui, c'est vécu comme un crime. Mais je me battrai, on se battra jusqu'au bout. Et on l'a gagné, le combat. On l'a gagné. Parce qu'aujourd'hui, on a emmené le combat. La question aujourd'hui des violences policières à Damas, son nom est devenu un symbole. On en parle partout, dans les quatre coins du monde. Et on sait qu'en France, il y a de la violence policière. Donc, on a gagné le combat. Aujourd'hui, il faut aller sur la justice. Cette justice, c'est pas que moi qui la réclame. C'est le peuple français.
Justice pour Karim!
Justice pour Karim!
Justice pour Mourad!
Justice pour Mourad!
Alors, si elles sont moins souvent tuées par la police, les femmes des quartiers populaires subissent les brimades, parfois les tabassages et les gaz, mais aussi les intimidations sexuelles. Il y a beaucoup de femmes qui portent le voile et des personnes qui sont perçues comme musulmanes qui subissent une islamophobie d'État par le corps policier et le corps militaire. En juillet 2012, il y a eu des policiers de la BAC qui ont dévoilé des femmes dans la rue, comme à Alger à l'époque coloniale. Même dans les jours de célébration ou de fêtes religieuses non catholiques, la police débarque pour contrôler les débordements de ce que Chirac avait appelé la France du bruit et de l'odeur. Et puis, il y a eu la loi contre le séparatisme et la loi sécurité globale qui renforce le ciblage des populations musulmanes. Donc depuis, les attentats et la montée de l'extrême droite qui veut reconquérir les territoires, selon eux, islamisés, est-ce que tu ne penses pas que maintenant la police exerce aussi beaucoup de violence sur les femmes, et notamment les femmes musulmanes?
Le refus d'obtempérer, la femme qui est morte, c'est pas une femme... On lui tire une balle dans la tête. À cette jeune femme, je crois qu'elle est d'origine arabe, ou je sais pas, mais en tout cas, qui n'est pas une personne blanche. Oui, la violence, elle est là. Mais c'est une violence psychologique. C'est de l'intimidation, que ce soit... C'est pas forcément que pour la sœur qui se bat pour les violences policières, c'est dans tous les domaines, c'est dans le travail, c'est dans autre chose, dans l'administratif. Il y a cette violence psychologique, il y a cette violence d'intimidation, il y a ces brimades où on te compare à un animal, ils sont très décomplexés. Il y a cette violence aussi sur le cheveu de la femme, que t'aies un cheveu afro, que t'aies des cheveux longs bouclés, parce que tu parles du voile, mais il y a les femmes voilées qui subissent cette violence pour le voile. Il y a ces femmes aussi qui sont pas voilées, où on leur dit « attachez vos cheveux », on leur touche les cheveux. C'est une violence aussi. Je suis désolée, attache-toi les cheveux, ben j'ai envie de dire « mais est-ce que moi je te touche les seins ? Est-ce que je te demande de mettre quelque chose où tout est caché ?» C'est une autre forme de violence. Et aujourd'hui, la violence, elle est aussi physique. Les violences policières, elles atteignent aussi les femmes. Mais on l'a vu aussi dans d'autres mouvements. Aujourd'hui, il n'y a plus de distinction, que tu sois une femme blanche, une femme... arabe, une femme, si c'était sur leur chemin, bon bah, ils te rentrent dedans. Donc oui, la violence, elle est là aussi.
Justice pour tous !
Justice pour tous !
Justice pour tous !
Justice pour tous !
Oui, en plus, cette démonstration de puissance policière, elle est justifiée par le sauvetage de ces femmes, comme si elles étaient des pauvres femmes, écervelées, en proie à la domination patriarcale et islamique dans ces quartiers populaires. Ça me fait penser à la formule de Gayatri Spivak qui dit « Ce sont des hommes blancs qui sauvent les femmes de couleur, des hommes de couleur ». Qu'est-ce que ça t'évoque, cette idée de sauvetage blanc ?
Et c'est un fantasme aussi hein, qu'ils ont de dire que dans nos quartiers, les femmes sont opprimées, elles n'ont pas de voix. C'est un fantasme hein, qu'ils ont, hein, c'est pas vrai. On peut aller chercher dans d'autres, dans la bourgeoisie aussi, hein, où les femmes n'ont pas de parole, n'ont pas droit à la parole, n'ont pas d'avis à donner, des femmes qui se font battre. On ne peut pas associer ça qu'aux femmes des quartiers populaires. Mais ça, c'est encore un fantasme. La violence, on peut aller la chercher, on peut aller la trouver autre part. Moi, je suis une femme et personne m'a dit « Ah ça, ne parle pas, reste à la maison, tais-toi, habille-toi comme ça ». C'est faux, plein d'hommes autour de moi et toutes les autres femmes aussi. Au contraire, il y a une très grande liberté et la femme a une place très importante même. Elle a une place centrale, c'est elle qui décide. Mais tout ça, ça a été construit encore sur un imaginaire qui a développé des fantasmes, des quartiers où certains sont même jamais rentrés dans un quartier, ils ne savent même pas. Je dis pas qu'il y a pas de violence, mais bien sûr. Mais on va chercher dans la bourgeoisie très blanche, la violence, il y en a aussi. Après, la violence, elle est partout et toutes les violences, il faut en tout cas les défendre. Donc, et ce paternalisme-là, cette place-là, nous, on leur laisse pas. Je suis une femme et personne m'a oppressée. Mais au contraire, ceux qui m'oppressent, ce sont ces hommes blancs. C'est eux qui m'interdisent de parler, c'est eux qui m'interdisent de circuler, c'est eux qui me disent « reste à ta place », c'est eux qui me disent « tais-toi », c'est eux qui me disent « tes cheveux, ça va pas », c'est eux qui me disent « ton corps, il est comme ça ». Ce sont pas des hommes noirs des quartiers, ce ne sont pas des hommes arabes des quartiers, ce sont ces hommes blancs.
Il y a aussi une réalité indéniable qui est celle de la pression que vit un policier aujourd'hui en France. Un rapport du Sénat, publié en 2018, signale qu'en début de carrière, des policiers affectés en Ile-de-France dorment parfois à plus de 5 dans 20 mètres carrés, voire dans leur voiture. Il y a eu 59 suicides dans la police française en 2019. Leur salaire est à peine plus haut que le SMIC, notamment pour les adjoints de sécurité, les ADS, qui sont d'ailleurs habilités à porter une arme et qui diplôment au bout de 3 mois de formation seulement. Ils sont certes sous pression et vivent des dépressions. Leur supérieur hiérarchique ne les considère pas. Et leur code de popularité chute, surtout depuis les gilets jaunes. Ils ne doivent jamais être vulnérables, ils doivent garder leur virilité à toute épreuve. Est-ce qu'il n'y aurait pas une urgence aussi de repenser la manière de former la police, d'une manière moins masculiniste, de manière moins raciste ?
Déjà, pour te dire par rapport à leurs conditions de travail, s'ils le disent, je ne vais pas dire que c'est faux, mais ce n'est pas moi qui donne les conditions de travail aux policiers. Ce n'est pas moi qui dis qu'aux policiers, vous allez travailler dans des locaux... insalubre, c'est pas moi qui dis tu vas avoir tel salaire, c'est pas moi qui dis que tu vas dormir dans la voiture, c'est pas nous le peuple qui décidons de ça, c'est pas nous qui se retournent vers l'État, ceux qui les emploient, ce sont eux les responsables. Et en fait, quand ils les mettent dans nos quartiers, on subit ce mal-être-là, on subit la violence qu'ils subissent, on la subit nous, mais encore plus fort, parce que nous, on nous tue, parce que eux, ils sont armés, nous, on n'est pas armés, eux, ils ont le droit d'exercer cette violence-là. Donc oui, ils dénoncent de la violence qu'ils subissent. La violence qu'eux subissent, qui la prend ? Qui la subit ? Ce seront nous. Et on n'a pas à être leurs dommages collatéraux. Nous ne sommes pas responsables. Je ne suis pas responsable. Tu n'es pas responsable. Personne n'est responsable de comment ils sont formés, de ce qu'ils subissent. Donc on n'a pas à en payer, nous, les conséquences. Pourquoi Adama Traoré ? Pourquoi Adama Traoré meurt ce jour-là ? Pourquoi ? Donc nous sommes les dommages collatéraux de ce qu'ils subissent eux avant ? Non, on n'a pas à le subir. Et la formation, bien évidemment. Mais c'est pas mon rôle encore de dire il faut faire ci, il faut faire comme ça. Non, on est en France, il y a des hommes intelligents qui savent très bien ce qu'ils font. Quand en France, ces techniques d'immobilisation ne sont pas interdites et qu'elles sont interdites dans d'autres pays frontaliers, pourquoi ? Ils sont plus intelligents que nous, ils ont plus de cœur que nous. Ils décident de la maintenir. Après le 2 juin, quand la Castanière qui passe à la télé, après la marche du 2 juin, il dit, on va penser à l'interdire. Qu'est-ce que les policiers français vont faire ? Pendant que dans le monde entier, après la mort de George Floyd, les policiers se remettent en cause, les pays en tout cas. Le seul pays qui va faire une manifestation illégale pour dire, nous, on veut continuer à utiliser ces techniques d'immobilisation, plaquage ventral, pliage, c'est la France.
Justice,
Alors justement, la violence des policiers et des militaires, c'est une violence qui est fondamentalement masculine. Elle est portée par un système idéologique qui est axé sur la reproduction d'un pouvoir patriarcal, où prime du coup l'autorité et la force de l'État comme père, comme maître. Et puis même si seulement un quart des policiers en France sont des femmes, certaines policières affirment dans les rapports devoir accentuer des comportements agressifs, machistes et parfois même misogynes pour s'intégrer. Le policier a toujours été par excellence le garant de l'ordre symbolique masculin. La police d'ailleurs au Maroc et en Égypte va violer des prostituées ou des personnes queer, ce qu'on appelle des viols correctifs. Et puis en France, les interpellations policières ont une dimension sexuelle, le tutoiement, les familiarités, les insultes à caractère homophobe. Ils leur disent « salope, fiotte, pédale, petite pute », les fouilles des parties intimes, et puis l'utilisation de la matraque comme instrument de viol, comme dans l'affaire Théo. Alors à ton avis, pourquoi les violences policières envers les personnes racisées, ou précarisées, ou minorisées, se doublent d'une humiliation, voire d'une violence sexuelle ?
On revient à l'histoire, la colonisation et l'esclavage. En fait, aujourd'hui, tant que la France n'assumera pas ses actes et dira « stop », c'est à eux de dire « stop ». Pour eux, nos corps leur appartiennent. Pour eux, ils sont dans un droit légitime. Je suis désolée, quand tu as des femmes qui subissent des violences conjugales et qui vont dans un commissariat, qui sont majoritairement des hommes, et qu'on les renvoie chez elles, parce qu'on minimise cette violence-là, parce qu'eux-mêmes sont violents. Et quand on apprend que toutes ces femmes qui se font tuer, elles sont presque toutes passées par le commissariat, il y a un problème. Il y a un problème déjà au rapport au corps. Il y a un problème de domination. Il y a un problème d'appartenance. Parce qu'elle a été construite sur de la violence.
On veut marcher ! On veut marcher ! On veut marcher !
Alors pour finir sur une note plus positive, l'émancipation collective est une bataille permanente. Mais alors il faut quand même évoquer qu'en 2020, au bout de 13 ans de lutte contre le non-lieu par les magistrats du système judiciaire en France, l'État français a enfin donné raison pour le meurtre de Lamine Dieng, en admettant sa responsabilité pour la violation du droit à la vie et la torture subie par Lamine. C'est donc possible. Alors Assa, à ton avis, est-ce que le combat évolue et jusqu'à quand le combat continuera ?
Le combat est continu. Aujourd'hui, on a pris le relais des combats d'avant. Tu sais, aujourd'hui, j'ai dit l'esclavage, le colonialisme. On peut parler de la ségrégation, on peut parler de plein de moments où la population noire, arabe ou autre a subi des violences extrêmes et très violentes et qui continuent à la subir. On peut parler du Brésil. Bien sûr qu'elle a évolué. Bien sûr. Et aujourd'hui, on doit, nous, faire honneur à toutes ces personnes qui sont battues avec dignité, avec force. Des personnes sont mortes, des personnes ont été en prison, des personnes se sont fait frapper, humilier, insulter, pour qu'on puisse avoir ce droit aujourd'hui que nous avons. Ceux qui étaient avant nous n'ont pas, se sont pas dit, il n'y a pas d'espoir. Aujourd'hui, on étudie Rosa Parks à l'école. Il faut savoir que Rosa Parks, on l'a mis en prison. Il faut savoir que Rosa Parks, on lui a craché dessus. Il faut savoir que Rosa Parks, on l'a humiliée. Il faut savoir que Rosa Parks, on ne voulait pas d'elle. Elle s'est battue. On peut citer d'autres noms. À l'école, ils nous parlent de Angela Davis. C'est des personnes qu'on ne voulait pas sur la place publique, qu'on diffamait, qu'on insultait, qu'on mettait en prison encore. Nelson Mandela, elle a fait 27 ans de prison. Et aujourd'hui, on l'étudie à l'école. Comment on peut dire aujourd'hui, comment on aurait même le droit de dire aujourd'hui, il n'y a pas d'espoir? L'espoir, il est là. Et l'espoir, on l'a vu. Parce que des personnes se sont battues. Et aujourd'hui, on se bat. Et quand je dis que dans le combat d'amant, on a gagné, oui. Aujourd'hui, on a fait qu'en France, la question des violences policières soit imposée au plus haut niveau et dans le monde entier. Quand je fais la une du Time, c'est pas juste Assa Traoré sur le Time. C'est de dire, en France, regardez le monde qui se passe en France. Regardez le racisme, la discrimination et tout ce qu'il y a. Donc oui, le combat, il évolue. Quand on est plus de 120 000, 80 000, aujourd'hui, ce sont des dates historiques qui rentrent dans l'histoire de France. Toi et moi, on est là, on est sur un podcast. C'était pas possible avant. On n'avait pas les hommes comme toi ou les femmes comme moi n'avaient pas ce droit-là. Et toi, grâce à ce que tu fais, à ton podcast, à cette diffusion, c'est encore pour que le message passe, pour que le combat et les luttes passent d'oreille en oreille, pour qu'il y ait une transmission. Et quand ça passe d'oreille en oreille, bah, ça travaille. Ça peut changer le cœur de certains. Ça peut donner de la force à certains. Et chacun à son niveau. Donc oui, l'espoir, il est là. On a tué mon petit frère. Mon frère, on l'a tué. Mais comme j'ai dit, avec son nom, je ferai tout pour que le nom d'Adama Traoré soit changeur de quelque chose. quand on demande la vérité et la justice pour Adama, quand on dit circuler librement, ben on ne peut pas circuler librement si d'autres subissent d'autres injustices. C'est pas possible. On peut pas dire oui aujourd'hui je ne peux pas participer à la construction de ce monde parce que on tue les Noirs et les Arabes. Mais quelqu'un d'autre va donner notre injustice. Mais qu'est-ce qu'on fait? Ben le monde il n'est pas libre parce que il est libre seulement quand chacun pourra dire mon injustice a été entendue et combattue. Et en fait, et c'est ça, et c'est pour ça qu'il faut se battre. L'espoir, il est là. Bien évidemment qu'il est là.
On va conclure, mais avant, dans chaque épisode de Jeans, on déconstruit ensemble un mythe ou un mytho qu'on m'a dit ou que j'ai souvent entendu. J'ai discuté avec un pote blanc parisien de la multiplication des violences policières et il m'a répondu « Non mais moi je veux bien croire qu'il y a un biais raciste chez les policiers, d'accord. Mais quand ils rentrent dans les cités, ils sont cassés la gueule aussi. Et d'ailleurs, j'ai envie de te dire, il y a aussi des policiers noirs. Qu'est-ce que tu aurais répondu à ma place ?»
C'est ce que j'entends aujourd'hui. Oui, mais il y a aussi des policiers noirs. Je ne vais pas dire oui, il y a un policier asiatique. Je ne vais pas dire il y a un policier blanc. Je ne vais pas dire qu'il y a... Aujourd'hui, c'est l'uniforme. C'est à partir du moment où il met l'uniforme, peu importe ta couleur de peau, tu es un policier qui représente les forces de l'ordre en France. Donc, ça veut dire quoi? T'es un policier plus, moins, t'es un policier... Non, tu mets... À partir du moment où tu mets l'uniforme, t'es un policier. T'es un policier comme le blanc, t'es un policier comme l'arabe, t'es un policier comme le noir, t'es un policier. Et ces policiers sont aussi très violents. Et quand ils restent dans ce corps policier, bah, c'est qu'ils acceptent cette violence. Sinon, il y en a plein qui sont partis. Il y en a plein qui ont dénoncé. Mais aujourd'hui, moi, quand je dis les gendarmes, ce sont les gendarmes déjà qui ont tué mon frère. Mais quand on parle de manière générale, le policier, on dit, personne dit le policier blanc ou le policier noir. Personne le dit. Je l'ai même jamais entendu. C'est l'uniforme. On parle pas de personne. Aux États-Unis, il y a 5 policiers qui ont tué un homme noir. Et on va dire quoi? Parce que on va minimiser parce que ce sont des noirs? Non. La condamnation, elle doit être exemplaire. Il faut savoir que c'est eux qui sont armés, hein. C'est eux qui ont des matraques. Quand ils viennent arrêter Adama Traoré, ils ont une artillerie dans leur véhicule, donc la violence, ça sera jamais au même niveau, c'est pas vrai. Donc c'est encore un justificatif qu'on cherche, et c'est complètement faux. Et je suis désolée, ils ont décidé d'être policiers. C'est comme un pompier qui malheureusement peut se faire brûler. Dire qu'il y a de la violence, oui, c'est possible. En tout cas, quand mon frère ce jour-là s'est fait tuer ce 19 juillet, lui, il n'était pas violent vers les policiers, les gendarmes. Il a exprimé ou exposé aucune violence. Et ce sont des policiers qui portent l'uniforme. Et c'est l'uniforme. Et aujourd'hui, quand on dit on veut des gardiens de la paix, en fait, dans le gardien de la paix, il y a le mot paix. Peu importe ta couleur.
Bah, merci beaucoup à Assa Traoré d'avoir pris le temps de répondre à mes questions.
Merci à toi.
Vous pouvez donc retrouver Jeans en ligne gratuitement sur toutes les plateformes d'écoute de votre choix. Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, etc. Vous pouvez aussi suivre l'actualité de Jeans sur Instagram @jeans-podcast. Voilà, à la semaine prochaine dans Jeans.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.